vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est assassiné. Alors que l'Europe est au bord de l'affrontement, Jean Jaurès reçoit le 31 juillet 1914 à 9h dans sa maison de Passy, son ami et ancien condisciple de l'École normale supérieure, Lucien Lévy-Bruhl. Les deux intellectuels parlent de l'imminence du conflit et commentent la presse du jour. Ils évoquent notamment l'éditorial de Jaurès dans le quotidien L'Humanité, fondé en 1904. C'est son ultime article. Sous un titre invocatoire, « Sang-froid nécessaire », il est possible de lire cette espérance. Le péril est grand, mais il n'est pas invincible. Pacifiste, le député du Tarn s'est opposé fermement en 1913 à la loi prolongeant la durée du service militaire de 2 à 3 ans. Jaurès rejoint le Palais Bourbon au début de l'après-midi. Entre deux réunions du groupe socialiste, il arpente la salle des quatre colonnes où attendent de nombreux journalistes. Avec passion, il apostrophe les uns et les autres. Le personnel politique commente la mobilisation austro-hongroise et l'état de danger de guerre menaçant proclamé le jour même à 13h par l'Allemagne. Jaurès interpelle le ministre de l'Intérieur, Louis Malvy. Que fait la France pour freiner la Russie? Où en sont les pourparlers avec l'Angleterre et le pays des tsars? À la réponse peu convaincante, le gouvernement fait ce qu'il peut. Le député de Carmaux tonne et appelle à la plus extrême fermeté face à la Russie. Si cette pression n'est pas faite énergiquement, alors c'est l'irrémédiable qui va s'accomplir. Il comprend que la France ne poussera pas à la conciliation face au tsar Nicolas II qui souhaite la guerre. Il sollicite une audience à René Viviani, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Sa demande est refusée en raison de la réception de l'ambassadeur d'Allemagne. À 19h30, une délégation socialiste est reçue au Quai d'Orsay par Abel Ferry, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Dans le couloir, Jaurès croise l'arrogant comte Izvolsky, ambassadeur de Russie, qu'il traite de canaille. L'entrevue ne débouche sur rien. Sur le pas de la porte de son bureau, Ferry confie « Tout est fini ». Jaurès accuse le coup. Il s'engouffre dans un taxi avec ses camarades Pierre Renaudel et Jean Longuet pour rejoindre le siège de l'Humanité. Il veut rédiger un article décisif, une sorte de « j'accuse ». Avant de se mettre au travail, il se rend à 21h au Café du Croissant, situé 146 rue Montmartre, à quelques dizaines de mètres de son journal. La salle du restaurant est bondée. Il reste quelques tables de libre près de la fenêtre ouverte en raison de la chaleur estivale. Il tourne le dos à la rue. Seul un mince rideau le sépare de l'extérieur. Au moment même, Raoul Villain dîne chez Pocardi, non loin du carrefour Richelieu-Drouot. Son repas terminé, il sort sur les grands boulevards, deux pistolets en poche. Il se dirige en direction du Café du Croissant où Jaurès entame une tarte aux fraises. Une table voisine est occupée par des journalistes. L'un d'eux montre à ses confrères une photographie en couleur de sa fille. Le directeur de l'Humanité la regarde et complimente le père. Ce sont ses dernières paroles. Quelques secondes plus tard, deux coups de feu claquent. La première balle l'atteint à la tête, l'autre brise un miroir. Dans la salle, c'est la panique. Des cris fusent. On a tué Jaurès. Renaudel éponge le sang qui s'écoule de la victime. D'autres se mettent en quête d'un médecin. Un pharmacien examine le blessé. Il est bientôt rejoint par Paul de Rio Branco, un spécialiste brésilien des blessures crâniennes, qui comprend immédiatement que l'espoir est vain. Georges Marty, un policier en faction, arrête un homme qui s'éloigne du restaurant. Menacé de lynchage, l'assassin présumé est conduit au commissariat de la rue du Mail. Un procès-verbal est établi à 21h50. Le texte précise seulement il consent à nous dire qu'il reconnaît avoir voulu tuer M. Jaurès, qu'il considère comme un traître à son pays parce qu'il a combattu la loi de 3 ans. Ce n'est qu'à 00h30 que l'assassin révèle son identité, Raoul Villain. À 22h15, un médecin légiste procède à un examen de la victime sous l'œil attentif du procureur de la République et d'un juge d'instruction. Un militaire en pleurs pénètre dans le café du Croissant. Il s'agit du capitaine Gérard, un proche de Jaurès depuis la rédaction de son ouvrage « L'armée nouvelle ». Il salue le corps, arrache sa légion d'honneur et la pose sur la poitrine du défunt. Un commissaire veut déposer la dépouille mortelle à la morgue. Un député socialiste s'y oppose. Jaurès est conduit à son domicile de Passy. Les policiers forment une haie pour livrer passage à la civière du député assassiné. Des centaines de voix s'unissent pour crier « Vive Jaurès !» Longuet témoigne « Ce parcours de la rue Montmartre à Passy, quelle chose tragique !» Des milliers de travailleurs marchaient derrière la voiture en poussant des cris d'horreur et de colère, des pleurs et des rugissements de vengeance partout. La foule se découvrait atterrée. À 22h30, le président de la République apprend l'assassinat du responsable socialiste en plein Conseil des ministres. Malvy craint une révolte dans les faubourgs de la capitale. Par précaution, 2 régiments sont consignés à la gare de l'Est. Raymond Poincaré envoie une lettre de condoléances à la veuve de Jaurès. Viviani rédige une proclamation au peuple français qui est immédiatement imprimée puis affichée sur les murs de Paris. Tout s'enchaîne ensuite. La mobilisation générale est décrétée le lendemain, au moment où l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 3 août, à la veille des obsèques, Berlin entre en guerre contre la France. Emprisonné durant la Grande Guerre, Villain est jugé en mars 1919. Acquitté, il est tué à Ibiza en 1936 par des républicains espagnols dans des conditions demeurées mystérieuses. Jaurès connaît les honneurs de la République. Il entre au Panthéon en 1924. Avant d'écouter la chronique littéraire « Un jour, 3 livres » préparée par Emmanuel, je vous propose une pause musicale avec Serge Gainsbourg. Nous écoutons son premier succès, c'était en 1958, « Le poinçonneur des lilas ».
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je
partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire. Un jour, trois livres préparés par Emmanuel que j'ai plaisir à vous présenter. Nous commençons par « La réinvention de l'humanité » de Charles King aux éditions Albin Michel. Voici un essai sur les premiers pas de l'anthropologie moderne. À l'origine de cette science se trouve un homme, Franz Boas, juif allemand né en 1858, qui émigra aux États-Unis et révolutionna les sciences humaines en apportant une base scientifique au relativisme culturel, à savoir l'analyse des croyances et des comportements humains en fonction de leur culture. Boas consacra une grande partie de sa vie à l'étude des Inuits et des tribus indiennes de la côte nord-ouest des États-Unis, s'attacha à prouver que, quelles que soient les différences de couleur, de peau, de genre ou de coutume, l'humanité est une et indivisible, et eut une influence considérable sur Claude Lévi-Strauss. La réinvention de l'humanité retrace le parcours de cet intellectuel en avance sur son temps et celui de ses élèves, tout aussi anticonformistes et visionnaires que lui, parmi lesquels Margaret Mead, Ruth Benedict, Ella Clara Deloria ou encore Zora Neale Hurston. Ensemble, ces hommes et ces femmes firent profondément évoluer le regard que nous portons sur l'humanité et démantelèrent les mécanismes à l'origine de la xénophobie et du racisme. La réinvention de l'humanité, c'est signé Charles King et c'est publié aux éditions Albin Michel. Ce que l'on sait de Max Topard, toujours aux éditions Albin Michel, c'est signé Nicolas Destienne-Dorve. La vie de Max Topard reste une énigme dans l'histoire de la cinéphilie. Aucun artiste n'a laissé autant de questions sans réponse. Sa vie se confond pendant près d'un demi-siècle avec celle du 7e art. Pourtant, il n'existe de lui aucun film, aucune photographie, aucune interview. Une jeune journaliste décide d'enquêter sur cette énigme et ses recherches réveilleront des spectres menaçants. Films interdits, acteurs fous, assassins, rencontres au Belphégor. Nous allons ainsi côtoyer le cinéma des frères Lumière aux années 1960. Le roman s'ouvre par un avertissement de l'auteur qui a choisi ce truchement pour nous faire découvrir Max Topard. Subsiste néanmoins la question de la réalité de son existence. Ce que l'on sait de Max Topard, de Nicolas Destienne-Dorve, s'est publié aux éditions Albin Michel. Et enfin, Le dévoué de Viet Thanh Nguyen aux éditions Belfond. Après Le sympathisant, prix Pulitzer 2016, voici la suite dans Le dévoué, chef-d'œuvre de roman politique. On y retrouve Van Dan, agent double à la solde des communistes, plongé dans le Paris de l'été 1981. Sa faune interlope, ses philosophes marxistes et sa place de la Bastille. Après avoir réchappé d'un camp de rééducation, Van Dan atterrit à Paris en même temps qu'une cohorte de réfugiés vietnamiens. Il est accompagné de Bon, son frère de sang, toujours aussi résolument anticommuniste, qui ignore la double identité de Van Dan. Tous deux, logés dans le 11e arrondissement de Paris, se lancent à l'assaut de la capitale bien décidés à faire leur trou. Hélas, le boss, leur seul contact à Paris, n'est autre qu'un trafiquant notoire qui leur propose en guise de job de devenir ses hommes de main, chargés de régler leurs comptes aux mauvais payeurs et aux autres resquilleurs. Bien trop sensible pour supporter toute cette violence, Van Dan propose au boss de se lancer dans un trafic de cannabis auprès des intellectuels de gauche et autres philosophes marxistes. un business plus tranquille et plus lucratif. Mais très vite, la réalité d'un marché très concurrentiel le rattrape et leur tortionnaire dans le camp de rééducation est affecté à l'ambassade du Vietnam. Le dévoué de Viet Tan Nguyen s'est publié aux éditions Bellefond. Ainsi se referme cette chronique. Merci à Emmanuel qui l'a rédigée. Nous allons nous séparer en chanson avec toujours Serge Gainsbourg. Nous écoutons un titre de 1963, La Javanaise.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. D'une chanson. Oh,